Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 13 mars 2025. En RDC, les pays d'Afrique australe mettent fin à leur mission militaire.
Alors que la ville pour laquelle la mission pour laquelle ils étaient mandatés, que la ville est tombée entre les mains des rebelles du M23, AFC, et donc il est très clair que ça ne valait plus la peine que cette mission continue sans savoir quel serait son mandat.
Bob Kabamba de l'Université de Liège en Belgique nous expliquera les enjeux du départ de la force de la SADC. Au Cameroun, arrestation de 20 suspects après l'assassinat de 2 chercheurs dans l'extrême nord. Le président russe Vladimir Poutine est d'accord pour une trêve en Ukraine proposée par Washington, mais estime qu'il y a des nuances et des questions importantes à régler. Des experts de l'ONU accusent Israël d'actes génocidaires à Gaza. Faux et absurde, réplique le premier ministre Benjamin Netanyahou. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Les pays d'Afrique australe ont décidé de mettre fin au mandat de leur mission militaire en RDC et d'entamer un retrait positif, progressif du moins, de leurs troupes à l'issue d'un sommet extraordinaire. Cette annonce intervient alors que la médiation angolaise a obtenu l'ouverture de négociations directes entre Kinshasa et le M23 à partir du 18 mars. Le point avec Eric Manirakiza.
Le retrait des troupes de la SADC a été décidé lors d'un sommet extraordinaire de l'organisation tenu par visioconférence. Les chefs d'État de la SADC ont réaffirmé leur engagement à soutenir la RDC dans la sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, tout en soulignant la nécessité d'une solution politique et diplomatique impliquant toutes les parties prenantes, y compris les États et les acteurs non étatiques. Le retrait de la mission de la SADC, composée d'environ 1300 soldats, a été réclamé par le président rwandais Paul Kagame, qui estimait qu'elle n'était pas une force de maintien de la paix et n'avait pas sa place dans cette situation. Parallèlement, des pourparlers de paix directe entre le gouvernement congolais et le M23 sont prévus pour le 18 mars à Luanda sous la médiation de l'Angola. Le président angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, a discuté de ces pourparlers avec son homologue congolais Félix Tshisekedi lors d'une visite mardi à Luanda. Ces négociations marquent une évolution notable. Le président congolais Félix Tshisekedi ayant auparavant refusé tout dialogue direct avec le M23.
Et le M23 a accueilli aujourd'hui favorablement, dans un communiqué, l'annonce par la médiation angolaise de prochaines discussions directes avec le gouvernement de Kinshasa. Le mouvement qui a repris les armes en 2021 relève néanmoins plusieurs préoccupations, pointant notamment l'absolue nécessité que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui avait jusqu'ici exprimé son refus de discuter directement avec le M23, exprime publiquement et sans ambiguïté son engagement pour des négociations directes. Au Cameroun, les autorités ont interpellé une vingtaine de personnes dans le cadre de l'enquête sur les meurtres de 2 chercheurs et leurs guides, confondus à des combattants de Boko Haram dans l'extrême nord du pays, régulièrement victimes d'attaques de Boko Haram. De nouvelles arrestations sont attendues. Plus d'informations avec Nani Talani.
Ces arrestations font suite à une opération de bouclage planifiée à Mblada en rapport avec les meurtres brutaux des chercheurs Frédéric Moussi et Bienvenue Bello, ainsi que de leur guide Kabalay Oumarou. Parmi les personnes arrêtées, une femme qui avait initialement averti le village de la présence d'individus ressemblant à des membres de Boko Haram. Selon des sources locales, certains suspects auraient pris la fuite afin d'échapper à la justice. L'enquête continue donc et de nouvelles arrestations sont attendues. Par ailleurs, les autorités locales ont autorisé l'exhumation des corps des victimes qui sera réalisée demain à la demande des familles. Selon le SINAC, l'équipe se trouvait à Soulé-des-Rois, une localité du Mayotte-Sanaga, dans le cadre d'une mission de recherche pour la collecte de données complémentaires en géologie structurale. Ils étaient en mission pour résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable des populations des Monts Mondara. Malgré la présentation de justificatifs, y compris des pièces d'identité et un ordre de mission, ils ont été attaqués par une foule en furie, a indiqué le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
Les violences implacables infligées aux civils soudanais depuis le début de la guerre en avril 2023 n'ont suscité qu'indifférence et inaction, a dénoncé aujourd'hui le secrétaire général de Médecins sans frontières devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AEA, Raphaël Grossi, a appelé aujourd'hui à une plus grande coopération avec le Niger lors d'une visite dans ce pays du Sahel qui est une source importante d'uranium. Côte d'Ivoire, l'Union européenne a lancé ce jeudi à Abidjan un programme de 7 millions d'euros pour accompagner la Côte d'Ivoire dans l'organisation de scrutins crédibles et apaisés à 7 mois de la présidentielle dans ce pays qui a connu plusieurs crises liées aux élections. La Tanzanie a déclaré aujourd'hui la fin de l'épidémie du virus de Marburg qui a fait 10 morts depuis janvier après 42 jours sans nouveaux cas. La dernière infection recensée au virus de Marburg date du 28 janvier, a affirmé la ministre de la Santé tanzanienne, Jenista Magama. La fin d'une épidémie est déclarée 42 jours après le dernier cas. 10 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie en janvier, 2 cas confirmés et 8 présumés selon l'Organisation mondiale de la Santé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine se dit en faveur d'un arrêt des hostilités en Ukraine, mais juge que toute trêve doit mener à une paix durable, alors que Steve Witkoff, l'émissaire du président américain Donald Trump, est à Moscou ce jeudi pour présenter aux Russes une proposition de cesser le feu de 30 jours. Jacques Aristide.
Nous sommes pour, mais il y a des nuances, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse au Kremlin ce soir au sujet de la trêve en Ukraine proposée par Washington. Comment garantir qu'une telle situation ne se reproduise pas ? Comment le contrôle sera-t-il organisé ? Ce sont des questions sérieuses, a ajouté le président russe. Nous devons en parler avec nos partenaires américains, peut-être appeler le président Donald Trump, encore dit Vladimir Poutine, tout en soulignant que les prochaines étapes vers la trêve dépendraient de l'avancée russe dans la région de Koursk. Une entrevue entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff, l'envoyé du chef de l'exécutif américain, n'est pas exclue, selon le Kremlin qui précise que l'émissaire doit en tout cas rencontrer des représentants russes de très haut niveau. Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait lui fustigé l'absence de réponse significative de la Russie à la proposition de trêve formulée mardi dernier après des pourparlers ukraino-américains en Arabie Saoudite et visant à faire cesser les combats après plus de 3 ans de conflit.
Les attaques systématiques d'Israël contre la santé sexuelle et reproductive à Gaza sont des actes génocidaires, selon les conclusions aujourd'hui d'une commission d'enquête des Nations Unies. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a dénoncé pour sa part des accusations fausses et absurdes. Claire Morin-Gibou.
Dans ce nouveau rapport, la commission onusienne évoque la destruction par les forces de sécurité israéliennes de la plus grande clinique de fécondation in vitro, Al-Basma, qui conservait des milliers d'embryons. Cette destruction visait à empêcher les naissances de Palestiniens à Gaza et visait, je cite, « à détruire les Palestiniens de Gaza en tant que groupe », ce qui constitue un acte génocidaire selon la commission. La commission se penche aussi sur les conséquences du blocage de l'aide humanitaire par Israël visant à entraîner la destruction physique des Palestiniens. Fin de citation. Des femmes et des jeunes filles sont mortes de complications liées à la grossesse et à l'accouchement en raison de ces conditions, des actes qui relèvent du crime contre l'humanité d'extermination. Relève également la commission qui a déjà accusé Israël de crimes contre l'humanité et le Hamas de crimes de guerre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répondu en accusant l'ONU d'attaquer l'État d'Israël avec des accusations fausses, notamment des affirmations absurdes de violences sexuelles.
La Syrie continue d'accorder un rôle central à la loi islamique dans une déclaration constitutionnelle publiée ce jeudi qui garantit les droits des femmes et la liberté d'expression pendant une période de transition de 5 ans. Cette déclaration doit servir de base à la présidence par intérim assurée par Ahmed al-Sharaa, ancien chef du groupe armé islamiste sunnite Hayat Tahrir al-Sham, qui a entraîné la chute de Bachar al-Assad à l'issue l'issue d'une offensive éclair sur Damas en décembre. Et puis, des responsables de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont déclaré aujourd'hui s'être mis d'accord sur le test d'un accord de paix pour mettre fin à près de 4 décennies de conflit entre les deux pays. Les deux anciennes républiques soviétiques se sont affrontées à plusieurs reprises depuis la fin des années 80, lorsque le Haut-Karabakh, une région d'Azerbaïdjan, comptait à l'époque une population majoritairement arménienne. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Gibourg.
La demande de gaz naturel en Afrique devrait augmenter de 3% en moyenne par an d'ici 2050, soit la plus forte croissance mondiale selon le dernier rapport du Forum des pays exportateurs de gaz. Le gaz naturel sera de plus en plus utilisé dans le secteur résidentiel et dans les commerces, précise Ecofin, en particulier en Afrique subsaharienne où une grande partie des ménages dépendent encore de la biomasse traditionnelle pour cuisiner. Au Sénégal, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a annoncé le recrutement de 5000 jeunes pour lutter contre l'insécurité. L'initiative Banlieue Sûre est un dispositif qui combine vidéosurveillance et agents de proximité dans les quartiers périphériques de Dakar, la capitale. Ces jeunes seront recrutés, formés et déployés pour réduire la criminalité. Au Niger, la société nigérienne de pétrole tente d'endiguer la pénurie d'essence. En cause, selon la SONIDEP, la levée des subventions sur le carburant au Nigeria, ayant entraîné une flambée des prix et une meilleure lutte contre la contrebande d'essence. D'autre part, la SORAZ, seule raffinerie du pays, ne peut fournir que 25 citernes par jour, alors qu'il en faudrait le double.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Première convocation du franco-ivoirien Désiré Doué en équipe de France pour affronter la Croatie.
Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé la liste des 24 joueurs retenus pour les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie prévue le 20 et 23 mars prochain. Parmi les nouveautés, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, âgé de 19 ans, a été convoqué pour la première fois en équipe de France. Cette sélection récompense ses performances convaincantes depuis le début de l'année 2025 avec son club. Son frère Guéla Doué, footballeur professionnel au Stade Rennais, a choisi la sélection ivoirienne dès les U23. À seulement 21 ans, le latéral de droit du Stade Rennais a été convoqué pour la première fois avec la Côte d'Ivoire lors du premier rassemblement des éléphants après leur sacre à la CAN. Le Rennais a donc dû trancher entre la France et la Côte d'Ivoire. Guéla Doué fait partie de ces nombreux joueurs de football professionnels qui possèdent une double nationalité.
En Ligue des Champions, le Real Madrid toujours en vie, mais les alertes se multiplient.
Le club merengue a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions après une séance de tirs au but controversée face à l'Atlético Madrid, durant laquelle le tir de Juan Alvarez a été annulé par la VAR pour une double touche. Cette victoire masque les difficultés du Real Madrid, notamment la gestion de ses 4 attaquants vedettes et des performances en dents de scie cette saison.
NBA, les Thunder marquent les esprits à Boston avant les playoffs.
Le Thunder d'Oklahoma City a une nouvelle fois marqué les esprits en s'imposant mercredi 118 à 112 sur le parquet des Boston Celtics, les champions en titre. Boston reste un solide deuxième à l'Est et devra s'ajuster avant les playoffs. Ailleurs, Houston a enchaîné un quatrième succès contre Phoenix 111 à 104 avec 29 points de Jalen Green. Et les Los Angeles Clippers ont dominé Miami 119-104 grâce à 30 points et 10 rebonds du Serbe Bogdan Bogdanovic qui avait rejoint l'équipe en provenance d'Atlanta le mois dernier. La star serbe Nikola Jokic a marqué 34 points pour les Nuggets, mais cela n'a pas empêché Denver de s'incliner à domicile 115 à 95 face au Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards. 29 points et d'enregistrer leur 24e défaite de la saison, 42 victoires, 3e à l'Ouest.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La fin annoncée de la mission militaire de la SADC dans l'est de la RDC soulève des questions sur l'impact potentiel de ce retrait sur la stabilité régionale. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Bruxelles, Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège et expert international au sein du programme Amani dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Parce qu'il faut bien se rendre compte du contexte dans lequel cette mission avait été décidée. Cette mission, dans un premier temps, avait été décidée de pouvoir arriver à sécuriser la ville de Goma, empêcher que les rebelles ne puissent pas entrer et prendre le contrôle de cette importante ville stratégique. Et dans ce cadre-là, il est devenu difficile pour l'armée sud-africaine ainsi que les forces de la SADC de rester alors que la ville pour laquelle la mission pour laquelle ils étaient mandatés, que la ville est tombée entre les mains des rebelles du M23 AFC. Et donc, il est très clair que ça ne valait plus la peine que cette mission continue sans savoir quel serait son mandat. Donc, dans l'état actuel des choses, c'était la décision la plus raisonnable que la SADC pouvait prendre.
Quels pourraient être les impacts de ce retrait sur la stabilité de la région, mais aussi sur la position de Kinshasa?
Alors, le retrait de cette mission illustre très bien que l'isolement de Kinshasa au niveau régional, quand je dis au niveau régional, ce n'est pas uniquement au niveau de la SADC, mais aussi au niveau de l'East African Community, et aussi de la CIAC, et aussi au niveau de l'Union africaine, et aussi même au niveau de la communauté internationale. Puisque toute la communauté internationale l'avait conseillé à Tshisekedi de pouvoir aller vers le dialogue et les négociations, Tshisekedi n'avait pas voulu, a uniquement focalisé toutes ses forces sur l'option militaire, et l'option militaire vient d'échouer. Et comme l'option militaire a échoué, et on voit bien que toutes les villes sont en train de tomber pratiquement sans combat, Bukavu est tombé sans combat, beaucoup de cités, Walungu, le fief de Kamere et d'autres, est tombé sans combat, et la progression de la rébellion dans le sud Kivu est assez fulgurante, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle qu'il serait pratiquement aux portes d'Ouvira, et que bientôt, il pourrait même s'attaquer à Kalemie, qui est le Katanga. Et le Katanga, c'est un autre combat, et ce qui veut dire clairement que cette option n'a plus de sens pour Tshisekedi, qui se retrouve isolé non seulement au niveau international, mais aussi au niveau interne. Et donc, les marges de manœuvre du président Tshisekedi se réduisent de jour en jour, et il ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, qu'on a encore d'autres revirements de situation après cette décision de la SADC.
Il y a le Burundi qui reste tout de même aux côtés de Tshisekedi et qui a un nombre important de troupes. On parle de 10 000 troupes.
Oui, le Burundi qui était déployé depuis plusieurs mois sur les champs de bataille. Ils ont été présents dans le Nord Kivu. Ils ont été défaits, tout comme les autres troupes de la SADC, les troupes de la MONUSCO, les troupes des Wazalendo, les troupes des mercenaires et les troupes même des FDLR ont été défaits. Et ils se sont repliés sur Bukavu. Là aussi, il y a eu une défaite sur Bukavu. Et donc, sur le terrain, ils sont en train de se replier sur Bujumbura et laisser champ libre à la rébellion pour pouvoir avancer. On avait une rébellion, on va dire, résiduelle qui gérait des villages. Maintenant, on a une rébellion qui gère pratiquement un État.
Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. L'Angola, pays médiateur dans le conflit dans l'est de la RDC, a annoncé des négociations de paix directe dès mardi entre délégations du gouvernement congolais et le M23. Hubert Kabasubabu, ancien gouverneur du Kasaï occidental, situe les enjeux de ces négociations et de l'acceptation par le président congolais de négocier avec les rebelles. Il est au micro de Antoine Roger Bolamba.
C'est une démarche, je dis, sympa, un pas très significatif dans le processus de la recherche de la paix et de la stabilité en RDC. Et beaucoup d'acteurs politiques, tant au niveau national qu'international, ont applaudi finalement la démarche. On salue la démarche de M. Tshisekedi pour que enfin finalement il puisse accepter de parler avec les leaders de l'AFC M23, en dépit du fait que dans le passé il avait catégoriquement refusé obligé de les rencontrer et que même il avait récemment, je pense que c'est la semaine passée, il avait mis la tête de Nanga, de Monsieur Corneille Nanga et de Monsieur Bissimwa, Monsieur Makenga et même votre collègue journaliste Péro Louara, il avait mis leur tête, fait mettre leur tête à prix. Et donc on considère que c'est une avancée assez significative pourvu que ces dialogues puissent se matérialiser.
Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui a changé du côté de Félix Tshisekedi pour que finalement il puisse accepter cette fois-ci de dialoguer?
Écoutez, il y a d'abord le fait qu'au début, il avait semblé, lui et son régime, ils avaient semblé mépriser l'AFC M23, mais ils se sont rendus compte très vite du fait que il y a eu accélération en fait des conquêtes de plusieurs villes, je veux dire, importantes, notamment Goma et la capitale du Nord Kivu et Bukavu, avec même l'impulsion d'une avancée, d'une marche vers Uvira pour une percée vers Kalemi, dans le Katanga, et même vers Kindu, dans le Maniema. Je pense que c'est cette percée, mais également le fait que l'AFC M23 a su recruter de milliers de militaires congolais qui étaient désemparés, frustrés, abandonnés, mais l'AFC M23 a aussi récupéré un arsenal militaire important. Donc l'AFC a augmenté, amélioré sa puissance de feu, mais également les troupes, et a eu maintenant un peu plus de puissance dans les rapports de force. Je pense que c'est la donne principale, mais également le fait que beaucoup de présidents africains ont insisté sur le fait que M. Tshisekedi devait négocier avec les M23.
Hubert Kaba Soubabou, ancien gouverneur du Kasaï occidental.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
Le Soudan du Sud traverse une période d'instabilité persistante qui menace la fragile paix acquise après 5 ans de guerre civile dévastatrice. L'accord de paix signé en 2018 entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar a certes mis fin aux affrontements, mais les récents développements ont mis à mal cet accord, ravivant les craintes d'une nouvelle escalade, notamment dans des régions comme le Haut-Nil, Juba et ses alentours. Par ailleurs, les milices communautaires comme l'Armée Blanche exacerbent encore cette instabilité, prévient l'International Crisis Group. Les détails avec Nani Talani.
La situation actuelle au Soudan du Sud est marquée par une instabilité croissante. Daniel Akesh, analyste principal à l'International Crisis Group, met en lumière les risques d'une aggravation de la violence. Daniel Akesh.
Les gens s'inquiètent non seulement dans la communauté internationale, mais aussi dans les régions, ainsi qu'à l'intérieur du Soudan du Sud, car la situation est actuellement instable, mais elle pourrait évoluer dans un sens comme dans l'autre, plus probablement vers une escalade. C'est une possibilité. Nous nous concentrons maintenant sur Nasir, qui est une véritable priorité, car c'est là que nous avons déjà vu le conflit. Mais il y a deux autres zones qui sont des points chauds potentiels.
Les récents affrontements dans le pays ont particulièrement menacé l'accord de paix de 2018. Les tensions restent vives, avec des incidents violents ayant éclaté ces dernières semaines, notamment dans le nord-est du pays. Les violences ciblant des missions de l'ONU, telles que l'attaque du 4 mars contre un hélicoptère, ont aggravé la situation, surtout dans la capitale Juba. Daniel Akesh.
Juba est une zone où nous pourrions assister à une flambée de violence parce que c'est là que siègent les deux principaux dirigeants qui sont à l'origine des tensions et que c'est également là que le président Salva Kiir a arrêté un certain nombre de responsables de l'opposition. Ensuite, dans les zones environnantes de la périphérie de Juba, il y a des sites de cantonnement pour les oppositions. Car lorsque le conflit a éclaté en 2013, les forces se sont divisées et n'avaient pas été unifiées. Chaque chef a donc ses forces stationnées dans certaines zones.
Depuis son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud est en proie à des violences et des conflits internes qui l'empêchent de se remettre de la sanglante guerre civile qui a opposé le président Salva Kiir au vice-président Riek Machar. Ce conflit avait fait près de 400 morts et plus de 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018, avant la signature d'un accord de paix.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Nous braquons les projecteurs sur la guerre civile qui déchire le Soudan depuis près de 3 ans. Les combats opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont plongé le pays dans une spirale de violence inouïe. Les chiffres sont accablants. Des dizaines de milliers de morts et plus de 12 millions de déplacés. Quelles sont les voies possibles vers une résolution pacifique? L'implication étrangère retarde-t-elle toute perspective de paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Les efforts de l'administration américaine pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine exercent une pression sur le Kremlin, mais Moscou a réalisé des gains territoriaux considérables et certains en Russie affirment qu'ils ne sont pas prêts à céder ces territoires. Suivons cela dans ce reportage de l'équipe de la VOA à Moscou avec le récit de Michel Joseph.
Cette semaine, Moscou a subi la plus grande attaque de drones ukrainiens depuis le début de la guerre, faisant au moins 3 morts et 17 blessés. De nombreux moscovites tentent d'ignorer la guerre, mais beaucoup espèrent également que les négociations entre le Kremlin et la nouvelle administration américaine apporteront bientôt une paix que les Russes considéreront comme une victoire. Des responsables russes affirment que l'objectif est la reconnaissance internationale des nouvelles frontières que l'armée russe a obtenues par la force. Alexander Kramarenko, ancien ambassadeur russe.
Il est clair qu'il y aura un règlement bilatéral entre nous et Kiev. Ça devrait être un traité de paix qui légalisera les nouvelles frontières de la Russie et les frontières post-soviétiques de l'Ukraine.
À Moscou, beaucoup célèbrent déjà le nouveau scénario géopolitique avant même la fin du conflit. Yevgeny Fyodorov est député du parti au pouvoir à la Douma.
C'est une véritable victoire. Vous pouvez ouvrir le champagne. De plus, elle ne peut pas être perdue. La Russie doit poursuivre l'offensive car personne n'a annulé les ambitions des États-Unis. Oui, ils ont peur de nous, mais cela ne signifie pas qu'ils ont renoncé à leur idée d'un empire mondial.
Après plus de 3 ans de guerre, le média indépendant Mediazona recense plus de 95 000 pertes côté russe. Mais ces pertes ne freinent pas le Kremlin qui poursuit la guerre. Lors d'une réunion avec des épouses et des mères de soldats décédés, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'y aurait aucune concession.
Nous n'allons pas faire cela. Nous devons choisir nous-mêmes une version du monde qui nous conviendrait et qui garantirait la paix pour notre pays sur une longue période historique.
Les critiques de Poutine ne peuvent s'exprimer que depuis l'exil. Selon eux, le Kremlin pourrait faire des concessions, mais renoncer à ses ambitions territoriales est hors de question. Anton Barbachin est directeur éditorial du groupe d'analyse sur la Russie, Griddle.
Des compromis peuvent être envisagés sur d'autres questions, notamment la manière dont l'architecture de sécurité ukrainienne sera construite après la guerre. Moscou veut être un acteur de la formation de cette nouvelle architecture de sécurité ukrainienne et, en réalité, définir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait.
Les responsables russes attendent avec impatience une rencontre avec des représentants américains après les discussions entre les équipes de négociation américaines et ukrainiennes en Arabie Saoudite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.